Mercredi, de Nobel, discours de Nobel, non pas celui de mon invité il y a 9 ans, mais celui d'un autre Français il y a plus de 30 ans, un certain Claude Simon, qui devant l'Académie suédoise avançait dans un texte brillant que le seul temps de la littérature c'était le temps présent. « Eh bien, disait-il, lorsque je me trouve devant ma page blanche, je suis confronté à deux choses. D'une part, le trouble magma d'émotions, de souvenirs, d'images qui se trouvent en moi. D'autre part, la langue, les mots que je vais chercher pour le dire. Et tout de suite, un premier constat, c'est que l'on n'écrit jamais quelque chose qui s'est passé avant le travail d'écrire, mais bien ce qui se produit au cours de ce travail, au présent de celui-ci. C'est une réflexion passionnante, parce qu'elle dit à quel point la littérature n'est jamais déconnectée du monde présent, à quel point elle s'inscrit toujours dans l'ici et le maintenant, même quand elle se saisit du passé, même quand elle se tourne vers l'avenir. Ça vaut pour l'écriture et pour la lecture qui, elle aussi, est toujours au présent et qui a même le pouvoir de réactiver le présent de toutes les histoires qu'elle découvre, quel que soit leur temps, même l'imparfait.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. À quel temps mon invité d'aujourd'hui se conjugue-t-il? Tiens, dans son nouveau livre, Alma, il brouille nos repères temporels. Il nous fait naviguer dans l'histoire tantôt mythique, tantôt réelle, tantôt rêvée, tantôt intime de son île Maurice. Alma, où le récit d'un retour au pays des ancêtres, d'une quête d'un lieu disparu, d'une tentative aussi pour rassembler ce qu'il appelle les lambeaux de l'histoire. Bonjour Jean-Marie Gustave Leclésio.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être là. Quel est pour vous le temps de la littérature?
Je dirais que c'est variable. Parfois, je me situe vraiment dans la mémoire, c'est-à-dire dans un passé assez lointain. Mais assez souvent, en effet, c'est plutôt une patte de temps, c'est un mélange de tous les temps. Et donc, c'est assez difficile de dire si c'est le présent, le passé, le futur. C'est un peu la rencontre de tous ces temps.
Mais avec un livre comme Alma, par exemple, qu'est-ce que vous avez le sentiment de rendre présent?
C'est une reddition des comptes. Donc, une reddition des comptes, ça a toujours un côté un peu amer qui appartient au passé. Et puis, un côté enfantin et utopiste qui appartiendra au futur. Et en réalité, c'est le moment où j'écris qui est important là aussi, en effet.
Par ailleurs, il se trouve que dans votre livre, il y a un personnage marginal qui raconte sa vie entièrement au présent, sans jamais employer ni le passé, ni l'imparfait, ni même le futur. Qu'est-ce qui se joue pour vous en tant qu'écrivain, mais aussi pour ce personnage, dans l'emploi systématique du présent, dans un langage, dans une langue entièrement au présent, Jean-Marie Gustave Leclésio?
Oui, je vous dirais que ça m'a coûté beaucoup de travail d'écrire un texte uniquement au présent. C'était un peu comme si j'avais omis la lettre « et » ou si j'avais décidé d'utiliser l'alexandrin. C'était une structure mentale qui était assez difficile à respecter. Mais pour moi, c'était la façon de traduire ce personnage qui vit dans une sorte d'entre-deux, entre le réel et l'imaginaire, une sorte d'innocent et en même temps qui connaît toutes les vilainies de la vie. Donc,
et parce que si tout est au présent, rien ne disparaît jamais, je me disais.
Oui, et d'ailleurs, quelqu'un lui dit à un moment donné, mais alors tu es éternel, tu ne mourras jamais. Et il dit, je crois que oui, je ne mourrai jamais.
Et il contient en lui toutes les histoires disparues. Si je vous parle de disparition, c'est parce que votre livre en est hanté par la disparition des dodos. On en a parlé, cet oiseau qui était présent sur l'île Maurice et qui a été exterminé par les colons, hanté par la disparition d'un lieu. Cette Alma où a vécu la famille de votre narrateur, hanté par la disparition des ancêtres, hanté par la disparition des noms des esclaves. Par quoi est-ce que vous êtes hanté, vous? Par quel fantôme, Jean-Marie Gustave Leclésio?
Oui, c'est plutôt par la littérature, par le goût de, en écrivant, de faire apparaître, de faire renaître parfois, apparaître quelquefois, et en tout cas de donner une matérialité à ce secret que j'ai à l'intérieur et que je ne connais pas tout à fait. Et si j'en connaissais l'issue, peut-être je n'écrirais plus.
C'est bouleversant de vous entendre dire ça, parce que le problème dans votre livre, et souvent dans vos livres, je crois, c'est que ce qui a disparu n'a laissé presque aucune trace. Et je me demande à partir de quelle trace est-ce que vous avez travaillé pour raconter l'histoire d'Alma?
Bah, c'est une histoire assez longue, parce que j'ai commencé rue Oudino, où se trouvaient les archives coloniales, les archives d'outre-mer, qui maintenant sont à Aix-en-Provence. Et j'allais là-bas pour lire les noms des esclaves qui étaient baptisés. Et il y avait les rôles où étaient écrits tous ces noms. Et c'était vraiment des rôles parce que les esclaves étaient baptisés au sortir des bateaux et donc on leur donnait comme prénom celui qu'on choisissait et comme nom de famille le nom du bateau. Ce qui fait que vous avez beaucoup de gens qui ont le même nom de famille.
Et donc c'est pas grand chose en fait.
Oui, c'est pas grand
chose. Ces traces-là. Alors comment on fait pour raconter une telle histoire sans traces? On invente?
C'est pas de l'invention et c'est comment dire de l'empathie, de l'osmose. C'est en regardant, en visitant. La première fois que j'ai été frappé assez fortement par ça, c'était en visitant les prisons d'esclaves en Martinique. Et parce qu'elles ont été conservées. À l'île Maurice, on les a fait disparaître. Et donc, j'ai eu l'impression qu'il y avait une part de l'histoire de l'humanité qu'on avait effacée, cette part-là. Et comme j'ai eu l'impression aussi de perdre beaucoup de parts de ma propre histoire, je me suis senti en harmonie avec cette disparition.
De ce fait, c'est aussi pour laisser une trace que vous écrivez?
Toujours, oui. Sinon, pourquoi écrirait-on?
Une trace de quoi? Une trace...
Une trace de la recherche, ne serait-ce que ça. Une trace de, pour dire j'étais là, ou ils étaient là, ils ont aimé, ils ont existé. Mais la seule trace qu'on peut trouver, c'est dans les mots. Ce ne sont pas des traces matérielles.
Qu'est-ce qu'il y a de pire que l'oubli, somme toute?
Il n'y a rien de pire que l'oubli, c'est certain. Il n'y a rien de pire que l'oubli. Et c'est pourquoi une grande partie de l'humanité se sent tellement mal aujourd'hui. C'est qu'on leur a volé une partie de l'histoire. C'est qu'on continue à leur voler une partie de l'histoire. Si vous regardez tous les conflits qui sont au théâtre dans le monde actuellement, ce sont des conflits qui tendent à effacer la mémoire.
Vous pensez à quoi précisément, là, maintenant?
Ne serait-ce que les Rohingyas, par exemple, on les expulse pour dire qu'ils n'existent pas. C'est une façon de dire « vous n'existez pas ». Vous n'avez jamais existé, on ne veut pas de vous, vous n'avez jamais existé. Mais ça s'est produit dans toutes les guerres et ça se produit encore dans d'autres endroits.
L'oubli a recouvert cette île, l'a enveloppée d'une membrane souple et laiteuse d'illusions. C'est ce que vous écrivez dans Alma en parlant de cette île. De quelle illusion est-ce que vous parlez, Jean-Marie Gustave Leclésio?
J'ai eu un grand choc quand un jour quelqu'un m'a dit « Ah, tu es des îles Maurice ». D'abord, il y a des îles, comme si on avait...
Ah, c'est arrivé ce matin aussi, vous avez remarqué.
Bon, ça, c'est pas grave. Tu es des îles Maurice, mais c'est un endroit où il n'y a rien, il n'y a que des cocotiers, et la plage, on s'ennuie là-bas. Et ça m'a choqué parce que, sans connaître vraiment bien l'endroit, je savais qu'il y avait autre chose que des cocotiers et du sable. Je savais qu'il y avait une histoire, l'histoire des gens, l'histoire de ma famille, qu'on avait beaucoup écrit, qu'on écrivait toujours beaucoup. Enfin, pour moi, ce n'était pas juste un décor. Il y avait vraiment une pièce de théâtre qui se jouait. Et on niait l'existence de cette pièce.
Mais la littérature, elle n'est jamais du côté de l'illusion, pour vous?
Non, 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 je ne crois pas. Je crois que c'est tout à fait différent de l'illusion. Je crois que c'est au contraire, c'est très... On va utiliser le mot réalité parce qu'on n'a pas d'autre mot, mais c'est très incarné, c'est très près de la peau, des sens.
Alors celle qui ne se fait pas d'illusions dans cette émission, vous la connaissez peut-être, c'est la culture et son actualité très trop réelle et réaliste. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 5 octobre?
Une bonne biographie?
One in which
c'est une biographie qui doit être établie sur des faits solides, parce qu'on est le produit de son époque, de l'endroit d'où on vient.
La vie en rote, les œuvres de l'écrivain américain Philip Roth, publiées entre 1959 et 1977, entrent aujourd'hui dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Au sommaire, Goodbye, Columbus, professeur de désir, ou Portnoy et son complexe, retraduit sous le titre La plainte de Portnoy. Ironie, c'est aujourd'hui que le Nobel de littérature 2017 doit être révélé. Suprême distinction qui a toujours échappé à Philip Roth, favori snobé depuis des années. Bordeaux inaugure aujourd'hui la deuxième édition du FAB, son festival d'art pluridisciplinaire et détonnant. Pendant 3 semaines, la métropole girondine va vibrer au rythme d'une trentaine de spectacles invités à réinterpréter le thème de la frontière. On attend par exemple la performance du chorégraphe israélien Arkady Zaïdès, les balades dépaysantes du belge Grégory Edelheim ou les illuminations du collectif madrilène Luz Interruptus. « The Conservatory, c'est le nouveau projet de Chilly Gonzalez. Le musicien canadien a créé son propre conservatoire de musique axé sur la performance live. L'idée, accueillir 6 jeunes compositeurs pendant 8 jours pour les former à l'exercice de la scène. Clou du show, 2 concerts à Paris au printemps. L'appel à candidature est lancé à tous les musiciens de plus de 18 ans. À vos banjos, les jeunes. Nous partons en voyage en Europe. Ce sont les premiers mots de la première nouvelle de fiction d'Ernest Hemingway, écrite alors qu'il n'avait que 10 ans et qui vient d'être retrouvée en Floride. Rédigée en 1909, l'œuvre d'une dizaine de pages a été écrite dans un petit carnet appartenant au jeune Ernest. En plus de la nouvelle, on y trouve aussi quelques vers de poésie et des notes sur la grammaire. C'est sérieux. Jean-Marie Gustave Leclésio, invité de Boomerang ce matin, vous vous souvenez, ou peut-être vous l'avez toujours, de votre tout premier texte, à vous.
Oui, ça s'appelait Un long voyage, donc il y a quelque chose en commun.
C'est un roman ?
Oui, c'était un roman.
Que vous avez écrit à quel âge ?
7 ans.
C'est une plaisanterie.
Oui, j'ai battu Hemingway de quelques années. Oui.
Mais est-ce que vous, comment vous le jugez, ce roman que vous avez écrit à 7 ans ?
Écoutez, il n'était pas si mal parce que je me rendais en Afrique pour aller rencontrer mon père. J'étais terrifié à l'idée de faire rencontre de cet homme que je ne connaissais pas. Les voyages faisaient en bateau, c'était très long, ennuyeux. Donc le roman a rempli ses fonctions, il m'a distrait pendant le temps du voyage.
Mais vous le publierez un jour ?
Non, je crois pas, non.
Je pense que ce serait une bonne idée. En l'occurrence, c'est pour la sortie de votre nouveau roman Alma que ce matin je vous reçois. On parlait tout à l'heure d'oubli. Et alors j'aimerais qu'on revienne aux toutes premières pages de votre livre, où votre narrateur, dont le père décédé est né à Maurice, et qui prépare un voyage là-bas, énumère les noms trouvés dans un vieil almanach de la direction coloniale. Alors vous écrivez cette phrase très forte, de tous ces noms, de toutes ces vies, ce sont les oubliés qui m'importe davantage, ces hommes, ces femmes que les bateaux ont volés de l'autre côté de l'océan, qu'ils ont jetés sur les plages, abandonnés sur les marches glissantes des docks, puis à la brûlure du soleil et à la morsure du fouet. Vous en avez parlé tout à l'heure de cette page, mais la culpabilité qui ressort de ce texte, la vôtre, elle ne s'effacera jamais, Jean-Marie Gustave Leclésio.
La culpabilité de tous, pas seulement la mienne. Nous sommes tous responsables de tout ce qui s'est passé dans l'histoire, histoire de France, histoire de l'Europe, histoire du monde. Et en 1820, quand on écrit cette liste des passagers de ce radeau de pierre qu'est l'île Maurice, on oublie de noter que sur 10 personnes qui vivent à l'île Maurice à cette époque, il y en a 8 qui sont esclaves. Donc on a seulement une toute petite énumération de noms par rapport à ceux qui vivaient.
En fait, la seule façon de composer avec cette culpabilité, c'est d'écrire.
Oui, c'est de dire les noms, de dire les choses et de dire les noms. C'est une histoire qui est, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un historien qui s'appelle Gerbaud, il appelait ça l'histoire du silence. Et donc l'histoire du silence, elle est honteuse. Il faut la dire, il faut rompre le silence et dire.
À travers vos nombreux livres, de procès-verbal, d'ailleurs, à Ritournelle de la fin, vous avez souvent ajouté des pages à votre roman familial. Que vous permet la fiction, somme toute ? Quelle échappée est-ce qu'elle vous offre ?
C'est que je suis né dans un espèce de vortex, quelque chose d'insupportable et qui m'a fait beaucoup souffrir jusqu'à mon adolescence, c'est-à-dire d'être quelqu'un mais de pas être ce quelqu'un, d'appartenir à une société qui n'existait pas, d'être originaire de l'île Maurice alors qu'à Nice on ne connaissait que Saint-Maurice, un quartier de Nice. Et j'ai toujours été dans cette sorte de schizophrénie. Et quand j'ai commencé à écrire et quand j'ai commencé à essayer de dire ces choses-là, je m'en suis libéré. Donc il y a un aspect égoïste.
Vous savez, j'ai l'impression que ça s'entend même dans le titre de ce roman, Alma. Parce que moi, quand j'entends le mot Alma, j'ai envie de le compléter par Mater, cette Alma Mater qui veut dire terre nourricière. De quoi est-ce que l'île Maurice vous a nourri, Jean-Marie Gustave Leclésio ? Et je rappelle que vous n'y êtes pas né.
Oui, je ne suis pas, strictement parlant, je ne suis pas né à Maurice. Je n'ai même pas été conçu à l'île Maurice. Je suis un émigré ou un migrant de la deuxième génération. Mon père devait pointer au commissariat tous les mois. Donc, qu'est-ce que m'a donné Maurice ? Elle m'a donné peut-être d'abord une belle collection de timbres. J'avoue que j'avais, quand j'étais enfant, ces timbres dont personne ne voulait. Je ne savais pas ce que c'était. Et ensuite, donc, j'ai l'intégrité de la collection. J'ai même hérité d'un album dans lequel on voit qu'on a décollé le Two-Penny qui vaut une fortune actuellement. Quelqu'un a volé à ma mère le timbre de Two-Penny bleu qui vaut si cher. Mais donc, matériellement, c'est cet héritage. Et après, c'est peut-être la capacité de ressentir plus d'empathie pour les petits, pour le petit monde, pour les gens qui n'ont pas le droit à la parole, qui proviennent d'îles, qu'on considère juste comme une sorte de distraction.
Vous dites souvent que vous vous y sentez chez vous. Ça veut dire quoi être chez soi ?
D'abord l'odeur. J'avoue que quand j'arrive, ça me fait tressaillir. L'odeur des fleurs de canne me fait tressaillir, alors que je n'ai jamais connu ça, sinon dans une vie antérieure, c'est un héritage génétique, mais ça me fait tressaillir. Après, tous les noms de lieux, les endroits que je rencontre, et puis après les gens que je découvre, bien sûr. Et surtout maintenant, je dirais la population, la vraie population mauricienne, c'est-à-dire les Indo-Mauriciens avec leur connaissance de la civilisation ancienne et de le goût qu'ils ont pour la nature, qu'ils partagent avec les plantes. Et ce sont des gens qui ne sont pas intéressés par la plage, sinon de temps en temps pour regarder un coucher de soleil. Autrement, la mer ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est ce que la terre produit. Et ça, c'est il y a une science de la nature, de la force de la nature dans la population, on appelle la population générale à Maurice, ce vilain nom comprenant les créoles et les indo-mauriciens, les sino-mauriciens et un tout petit peu les franco-mauriciens.
Je vais vous emmener sur une île, si vous le voulez bien, Jean-Marie-Gustave Leclésieux, avec Barbara, à qui France Inter, figurez-vous, consacre une journée spéciale. Aujourd'hui, 5 titres de son album inédit, Lily Passion, qui sort demain, seront joués sur notre antenne. On va écouter Emmène-moi, parce qu'il est question d'une île, parce que c'est vous, Jean-Marie-Gustave Leclésieux, dans Boomerang. Évidemment.
Emmène-moi dans ton île, loin des rumeurs de la ville. Je n'ai jamais dit je t'aime à nul autre qu'à moi-même. Je veux partir dans ton île, où je sais que loin des villes, sous tes fureurs assassines, sous ciel et par-dessus terre, j'ai vu grandir la misère. Je n'ai peur rien, moi je chante, impudique et impuissante, surgissant de tes nuits mauvaises. Tu m'as laissé la vie sauve, mais tu m'as rendu coupable de tes crimes abominables. Épargnerais-tu les âmes? Déposerais-tu les armes? Si je chantais sur ton île, pour toi seule et loin des villes. Oh, qu'un homme avant toi n'a posé ses mains sur moi. Tu devais croiser ma route et même écoute que mon coup. Je veux partir dans ton île, dans ton île. Emmène-moi dans ton île, là-bas, loin des villes. Je n'ai jamais dit je t'aime à nul autre qu'à moi-même. Je veux partir avec toi dans ton île. Moi des villes, je veux partir avec toi dans ton île. Là-bas, loin des villes, emmène-moi.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Que dire, sinon qu'il est évidemment très beau, hein, tout le monde vous en parlera, de ses airs de Robert Redford. Mais dans ses yeux bleus, si bleus, il y a quelque chose de très sombre, c'est une gravité, insondable, mystérieuse, comme s'il se rongeait les sangs en permanence. Il est très cool, ce matin, avec son pull en laine, t-shirt vert en dessous, jean, basket. Jean-Marie Gustave Leclésieux, invité de Boomerang, ce matin pour Alma, son nouveau roman où les histoires croisées de deux personnages. Le premier, il faut le rappeler, qui se rend à l'île Maurice à la recherche de ses ancêtres, mais aussi des traces laissées par ces drôles d'oiseaux disparus que sont les dodos. Le second qui quitte l'île Maurice pour la France, qui s'appelle aussi Dominique et qu'on surnomme justement Dodo. En fait, votre livre, vous auriez pu l'appeler Dodo, Jean-Marie Gustave Leclésieux. Vous y avez pensé ou pas?
Oui.
Ouais. Et alors non?
Oui, ouais, non, mais ça, c'était un peu trop clair.
Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il symbolise, cet oiseau. Pour vous donner un élément de réponse dans le 7-9 de Nicolas de Morand tout à l'heure, la folie des hommes.
Oui, oui, ça a été la première victime, enfin officielle, la première victime officielle des humains. Et tout à l'heure, j'ai lu un passage dans lequel un marin hollandais rendait hommage au dodo parce que ses croupes rondes lui donnaient beaucoup de lard. Et donc, ils ont été frappés à coups de gourdin. C'était des oiseaux qui ne connaissaient pas les humains. Ils étaient assez grands, assez costauds, donc ils n'avaient peur de rien. Et quand les humains sont arrivés, ils sont allés vers eux pour faire connaissance de ces drôles de bipèdes qui débarquaient chez eux. Et là, on les a assommés. Et un des marins raconte comment ça se passait. Il dit, l'oiseau est tellement bête qu'il suffit qu'il y en ait un qui agite un chiffon rouge à gauche, l'autre arrive à droite et peut y taper dessus sans problème.
Ce sont des pages absolument bouleversantes et difficiles à lire de votre roman, Jean-Marie Gustave Leclésieux. Mais pourquoi l'homme tel que vous le décrivez, en partie dans le livre, est-il toujours animé par cette volonté de domination et de destruction, à votre avis?
Oui, ben, il arrivait au paradis terrestre, parce que c'était une île qui n'avait pas connu les humains, donc elle s'était développée seule, dans l'harmonie darwinienne, c'est-à-dire que bon, tout ce qui était invivable avait disparu, et c'était un monde clos assez bien structuré, qui aurait pu continuer à vivre longtemps comme ça.
Qu'est-ce qu'un monstre, pour vous ?
Un monstre ? Oui, un monstre, c'est quelqu'un qui, justement, vient de l'extérieur, c'est une force extérieure. Donc c'est certain que pour les dodos, l'humain était tout à fait monstrueux. Ensuite, quand il n'a plus les dodos, ben, on a trouvé d'autres monstres. C'était essentiellement les trafiquants en tout genre.
Il y a ce personnage de votre livre qui s'appelle donc Dominique, qu'on surnomme Dodo, qui est défiguré par une maladie depuis l'adolescence. Il n'a plus de lèvres, il n'a plus de paupières. Et c'est lui que les gens traitent de monstre. Cet homme, au même titre que le dodo, vous en faites une sorte de victime expiatoire, notamment à travers des scènes d'une violence absolument sidérante. Et j'aimerais partager avec vous une scène qui, moi, m'a bouleversé. Il commence à rire, à jeter des coups de roche et de la terre sèche. Et moi, je me protège avec mes bras. Personne, vilain kuma macaque, une gueule de macaque, c'est ce qu'ils disent. C'est pas ma faute si j'ai une gueule de macaque. C'est la maladie qui mange ma gueule. Mais je préfère rien dire. Je guette leur visage pendant qu'ils me jettent toute cette terre et ces feuilles pourries. Et puis il y en a un qui me donne un coup de pied dans les côtes. Un autre tape très fort avec la pointe de sa botte. Ça fait mal. Je dis ouf et ça les fait marrer encore plus. Celui qui est grand, avec un joli visage et des yeux noirs, il vient avec une batte de cricket peinte en rouge et blanc et il me tape sur la tête. Il vise ma gueule sans rien dire. Et les autres crient « Donne-lui, donne-lui ». Il tape beaucoup, 10 coups, 20 coups. J'ai les bras levés. Plusieurs fois, le bâton tape ma joue, mon front, l'arrière de ma tête. Il tape de toutes ses forces. Il dit rien que « on, on » et les autres crient et sifflent. Et ça continue, Jean-Marie Gustave Leclésieux, sur de longues lignes. Qu'est-ce qui se joue dans cette scène d'une violence archétypale?
Oui, c'est la bestialité, c'est la cruauté essentielle, qui est inhérente aux êtres humains.
Vous êtes dans quel état quand vous écrivez ce type de scène?
Oui, c'est... Je crois que je suis hanté par des scènes comme ça, je ne sais pourquoi. Pourtant, je n'ai pas été victime moi-même d'agression, mais je ne sais pas, peut-être parce que je suis né pendant la guerre, j'en sais rien. Je suis hanté par l'idée qu'il y a toujours un innocent qui est pris comme cible par d'autres et qui lui font payer leur bêtise et leur méchanceté.
Je trouve qu'il y a toujours chez vous cette oscillation entre la beauté et la plus insoutenable laideur. Comment est-ce que vous faites pour continuer à la percevoir, la beauté?
Oui, c'est qu'elle est là. Elle est là malgré tout. Elle est là dans le regard que les innocents portent, même sur leurs agresseurs. Je veux dire que la nature est belle par elle-même. Donc l'être humain appartenant à la nature doit avoir cette part de beauté. Et l'île Maurice aurait pu être un de ces exemples d'un endroit merveilleux, un paradis. Ça a été tout sauf un paradis.
J'aimerais qu'on termine cette émission avec un texte que vous nous avez écrit, Jean-Marie Gustave Le Clézio, un texte qui parle des migrants, je crois.
Oui, je vais vous le lire. La vérité, c'est que chaque drame de la migration en provenance des pays pauvres pose la question qui s'est posée jadis aux habitants de Roquebillière lorsqu'ils ont offert l'asile à ma mère et à ses enfants. C'est la question de la responsabilité. Dans le monde contemporain, l'histoire ne répartit plus les populations entre factions guerrières. Elle met d'un côté ceux qui, par le hasard de leur situation géographique, par leur puissance économique acquise au long des siècles, par leur expérience, connaissent les bienfaits de la paix et de la prospérité. Et de l'autre, les peuples qui sont en manque de tout et surtout de démocratie. La responsabilité, ce n'est pas une vague notion philosophique, c'est une réalité, car les situations que fuient ces déshérités, ce sont les nations riches qui les ont créées, par la conquête violente des colonies, puis après l'indépendance en soutenant les tyrannies, et enfin, au temps contemporain, en fomentant des guerres à outrance, dans lesquelles la vie des uns ne vaut rien, quand la vie des autres est un précieux trésor. Bombardements, frappes ciblées depuis le ciel, blocus économiques, tous les moyens ont été mis en œuvre par les nations puissantes pour vaincre les ennemis qu'elles ont identifiés. Et qu'importe s'il y a des victimes collatérales, des erreurs de tir, qu'importe si les frontières ont été tracées à coups de sabre par la colonisation, sans tenir compte des réalités humaines. La migration n'est pas, pour ceux qui l'entreprennent, une croisière en quête d'exotisme, ni même le leurre d'une vie de luxe dans nos banlieues de Paris ou de Californie. C'est une fuite de gens apeurés, harassés, en danger de mort dans leur propre pays. Pouvons-nous les ignorer, détourner notre regard, accepter qu'ils soient refoulés comme indésirables, comme si le malheur était un crime et la pauvreté une maladie? On entend souvent dire que ces situations sont inextricables, inévitables, que nous, les nantis, ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, qu'il faut bien des frontières pour nous protéger, que nous sommes sous la menace d'une invasion, comme s'il s'agissait de hordes barbares montant à l'assaut de nos quartiers, de nos coffres-forts, de nos vierges. Quand bien même nous ne garderions que l'argument sécuritaire, n'est-il pas évident que nos murs, nos barbelés, nos miradors sont des protections illusoires? Si nous ne pouvons accueillir celles et ceux qui en ont besoin, si nous ne pouvons accéder à leurs demandes par charité ou par humanisme, ne pouvons-nous le faire au moins par raison? Comme le dit la grande Aïcha Hachemna, qui vient en aide aux enfants abandonnés du Maroc, « Donnez, car si vous ne le faites pas, un jour ces enfants viendront vous demander des comptes. » L'histoire récente du monde nous met devant deux principes contradictoires, mais non pas irréconciliables. D'une part, l'espoir que nous avons de créer un jour un lieu commun à toute l'humanité, un lieu où régnerait une constitution universelle. Et souvenons-nous que la première constitution affirmant l'égalité de tous les humains fut écrite non pas en Grèce, ni dans la France des Lumières, mais en Afrique, dans le royaume du Mali d'avant la conquête. Et d'autre part, la consolidation des barrières préventives contre guerre, épidémie et révolution. Entre ces deux extrêmes, la condition des migrants nous rappelle à une modestie plus réaliste. Elle nous remet en mémoire l'histoire déjà ancienne des conflits inégaux entre pays riches et pays sous-équipés. C'est le maréchal Mobutu qui, s'adressant aux Nations Unies, proposa une vraie échelle de valeurs établie non pas sur le critère de la puissance économique ou militaire d'un pays, mais sur sa capacité au partage des richesses et des services, afin que soit banni le mot de sous-développement et qu'il soit remplacé par celui de sous-équipement. Nous nous sommes habitués progressivement, depuis les guerres d'indépendance, à ce que des centaines de milliers d'êtres humains, en Afrique, au Proche-Orient, en Amérique latine, naissent, vivent et meurent dans des villes de toile et de tôle, en marge des pays prospères. Aujourd'hui, avec l'aggravation des conflits et la sous-alimentation dans les pays déshérités, on découvre que ces gens ne peuvent plus être confinés, qu'ils traversent déserts, forêts et mers pour tenter d'échapper à leur fatalité. Ils frappent à notre porte, ils demandent à être reçus. Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort? Dans son beau livre, le docteur Pietro Bartolo cite cette phrase de Martin Luther King qui n'a jamais sonné aussi vraie. Nous avons appris à voler comme des oiseaux et à nager comme des poissons, mais nous n'avons pas appris l'art, tout simple, de vivre ensemble comme des frères.
Merci infiniment, Jean-Marie Gustave Elcasio, pour ce texte très fort. Et merci d'être venu dans cette émission et toute cette matinée sur France Inter. Vous ne pouvez pas savoir à quel point on en est fiers. Je rappelle que Alma sort aujourd'hui aux éditions Gallimard. C'est un livre d'une très grande force, d'une très grande beauté, que j'invite tous les auditeurs à lire au plus vite.